qu'un vendeur d'alcool retrouve dans sa cave une vieille caisse de bouteilles et qu'il les met en vente croyant que les années bonifient l'alcool. Imaginez simplement qu'il se trompe.
Si c'était pour
moi. Aujourd'hui, je te propose 5 $.
Eh, tiens, petit.
Oh, la bouteille.
Regarde.
Et dégueulement sur moi.
Et regarde-le, il passe vraiment par toutes les couleurs.
Regardez bien votre verre. Et surtout, faites attention à ce qu'il y a dedans.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran.
Amis de la poésie, bonjour.
Bonjour. Oui, c'était donc la bande-annonce française de l'époque de Street Trash, quand on va parler du film légendaire de Jim Murrow. Et je trouvais qu'il n'y avait pas meilleure introduction en fait que vieille bande-annonce à l'ancienne, donc qui datait des sorties VHS en 1987.
À la fois pour le doublage et les bruitages, c'est aussi important.
On était pas mal, effectivement.
Voilà. Bien signer une émission sur le signe du mauvais goût, surtout.
Alors, pour terminer la saison, fallait bien qu'on parle de mauvais goût. Salut Seb.
Salut.
Enfin, mauvais goût et très bon goût à la fois, parce qu'on va parler quand même que ce film-là n'est pas devenu culte pour rien. Alors, c'est vrai que, donc, on va parler donc de Street Trash, mais avant de parler Street Trash, il faut quand même parler de, je dirais, des deux personnages principaux pour l'élaboration de ce film. Tout d'abord, le premier, le réalisateur James Michael Murrow, donc dit Jim Murrow. Lui, en fait, donc réalisateur donc originaire du comté de New York, c'est un passionné donc du cinéma d'épouvante depuis sa plus tendre enfance. Et c'est vrai qu'en fait, lui, il a commencé notamment par aider plusieurs cinéastes avant d'entrer à l'école. Notamment, il a aidé par exemple Frank Underwood sur le tournage de Basket Case.
Ça va, hein.
Donc voilà, il a un petit peu commencé, on va dire, dans le milieu du cinéma underground, qui finalement va le marquer, hein, parce qu'on va le voir avec Street Trash. Il va atterrir donc ensuite la School of Visual Arts of New York, et donc c'est avec un camarade de classe qui va réaliser un petit court-métrage qui s'appelle Street Trash.
Absolument. Donc déjà étudiant, commencer avec Alan Lothar, ça va, on est quand même dans les grands noms du cinéma underground new-yorkais de l'époque des années 80.
Et le cinéma de la débrouillardise.
Et de la débrouillardise, vraiment, avec déjà, en tout cas le cinéma d'Alan Lothar, c'est ça, c'est déjà du bas-fond de l'âme humaine dans le New York de l'époque post-Reagan, hein, en tout cas, Reagan ou post-Reagan, ça aura
Reagan,
son importance pour Street Trash aussi. Mais avec effectivement toute cette génération là de Alan Lothar, de Ferrara, de ces gens là qui sont, comme tu dis, dans la débrouille avec 3 francs 6 sous, arrivent à monter une prod et à faire donc les Basket Case, les 3 en tout cas pour Alan Lothar, et Frankenhooker, qui est aussi un des monuments de Beast Underground new-yorkais. Et donc c'est là-dessus que Jim Murrow se fait ses armes, surtout en travaillant sur la créature de Basket Case, cette espèce de créature qui se cache dans le panier, informe quoi, et donc s'occupe déjà un peu du maquillage tout en suivant ses études.
Mm-hmm.
Ce qui lui fait très peu de sommeil dans tout ça,
voilà.
Quand même. Et oui, voilà, avec son court-métrage Street Trash, qui est déjà un manifeste de ce que sera le long-métrage plus tard,
oui.
Mais qui aussi appartient à cette génération de cinéastes comme Alan Lothar, finalement.
Oui, alors, les générations de cinéastes, on va en parler, parce que forcément, le cinéma new-yorkais, en fait, regorge de... on va dire de ce genre de réalisateurs qui ont vraiment marqué un peu cette période du New York des années 80, très très sale, très très abrupte, finalement, qui sont un peu les enfants aussi des héritiers un peu comme Martin Scorsese, qui lui l'avait déjà démontré dans les années début des années 70 avec Taxi Driver. Mais c'est vrai qu'en fait les années 80 vont être portées un peu plus sur le côté série B, le côté comédie horrifique que n'avaient pas les années 70, et c'est vrai que donc
et surtout,
Street Trash posait déjà un peu les bases base de ça, quoi.
Ouais, et surtout là où Scorsese et compagnie.
Enfin, le court-métrage.
Ouais, bien sûr. Sont sur du bon cinéma indépendant, mais qui se revendiquait quand même de l'ancien Hollywood, quand même.
Voilà,
référencé. Là, on est typique dans ce qu'on appelle la vague du gore américain des années 80. Et on va voir Street Trash, c'est vraiment un des grands films cultes de cette époque-là aussi par rapport aux propositions gore qu'ils ont à l'intérieur de lui. Et c'était déjà du coup le cas dans le court-métrage qui est déjà... en fait, tout l'arc narratif et le seul arc narratif qu'il y a dans le court-métrage, c'est cette boisson qui est sortie d'un carton et qu'un mec, parce qu'il n'y a pas de petites économies, va le vendre $1 à des clochards du coin, et les clochards du coin, à chaque fois qu'ils en voient 20, se liquéfient et se décomposent. Et c'est juste le court-métrage, une succession de ça, avec le personnage principal qui sera... Alors, entre guillemets, parce qu'on verra qu'il n'y a pas tellement de personnages principaux dans le film, dans le long métrage, mais qui était déjà, en tout cas, le héros du court métrage, et qui est j'en achète une, mais à chaque fois, on me la vole, et donc, j'arrive pas à picoler mon truc. Et c'est un prétexte pour faire une succession de scènes qui sont vraiment un prétexte gore, et qui montre déjà un vrai savoir-faire pour Jim Murrow en la matière, quoi.
Exactement. Alors, c'est vrai que donc, ce court-métrage, donc le 15 minutes, va plutôt impressionner en fait les représentants de son école, notamment donc le deuxième personnage important dans l'histoire, Roy Frumkes. Roy Frumkes, en fait, donc, était professeur de Jim Murrow à la Visual Arts of New York, donc. Et Frumkes n'est pas un professeur très âgé, il est assez jeune, il connaît le milieu de la série B, il a notamment travaillé avec Romero, il a fait un documentaire sur le tournage de Dawn of the Dead, il a même joué un zombie dans Dawn of the Dead, donc dans Zombie de Romero, de sortie en 78. Et c'est vrai qu'en fait, donc, Frumkes va proposer donc, à Jim Murrow en fait, de tourner une version améliorée, toujours en 16 mm, donc. Et Frumkes, en fait, va lui-même se charger du scénario, de réunir avec beaucoup de difficultés le financement pour développer cette aventure. Et c'est comme ça que le long métrage va se mettre en route.
Et alors, d'une manière très très maligne pour Frumkes, donc, on lui charge déjà d'écrire un scénario à partir du court métrage qu'on vous a résumé. Voilà, oui. C'est juste ça. Et donc, lui décuple au moins le nombre de protagonistes par rapport au court métrage.
Va mettre beaucoup plus de profondeur à des personnages aussi, forcément.
Ramener plus de profondeur. Et alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est dans ce que le film dont on va parler n'est pas celui qu'a écrit Frumkes.
Oui.
C'est-à-dire que celui que Frumkes a écrit arrivait à 2h40 de métrage. Et avec plein de sous-intrigues, plein. Et finalement, à la fin, le film qu'on connaît, il est en 1h40. Et comme tout ce qui a été tourné a été perdu depuis, on ne connaîtra jamais ce qu'avait écrit Frumkes.
Voilà.
Bon, cela dit, est-ce que ça tiendrait sur 2h40? J'en suis vraiment pas convaincu.
Je ne pense pas.
Mais en tout cas, c'est dire le travail qu'a réalisé Frumkes en tant que scénariste dessus et en tant que producteur. Il a fait cette chose quand même très très maligne, qui est que, donc le principal producteur du film, c'est lui et Murrow. Mais pour pouvoir récolter les fonds, il a passé un an à demander à le plus de personnes possible de donner vraiment pas beaucoup.
Voilà.
Ce qui fait que personne...
On est sur les principes du financement participatif, en fait.
Exactement.
C'est avant que Kickstarter ou KissKissBankBank existent, tout
Mais
simplement.
Mais du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique vraiment une liberté artistique totale pour Frumkes et Murrow.
Ouais.
C'est-à-dire que personne n'a plus d'investissement qu'un autre dans le film.
C'est
et
ça.
Du coup, personne n'a plus son mot à dire que Frumkes, qui lui a déboursé le plus d'argent. Là-dedans.
Voilà. Il y a juste, en fait, le petit distributeur derrière qui a mis $60,000. C'est tout.
Exactement.
Voilà. Et ça c'est vrai que donc Frumkes qui s'est chargé du scénario, parce que c'est vrai qu'en fait il faut quand même le dire, Jim Murrow lui a fait ce court métrage un peu pour enchaîner des gags, il n'y a pas de réelle narration comme on en a expliqué, parce qu'en fait Murrow est plus féru de technique. Murrow adore la technique cinématographique, et d'ailleurs pour le court métrage Street Trash, il s'était donc payé et développé une Steadicam, notamment suite à un héritage où il avait gagné un petit peu d'argent pour développer sa caméra. Quoi.
Ouais, la mort de son oncle, il récupère l'héritage, ça lui permet de commencer à avoir sa Steadicam, une des premières armes dessus, il est devenu le spécialiste en la matière depuis, mais en tout cas, ça lui permet d'avoir un minimum de matériel pour quand même offrir au film, comme tu dis, la technicité, l'ambition qu'il a envie d'y mettre. Parce qu'on va bien voir, au-delà du statut culte de film B qu'il est, Street Trash est aussi culte par rapport à la, à, presque à la maîtrise en fait, que Murrow met dans la réalisation du film. Mais en tout cas, voilà, on arrive là où on en est sur un court-métrage qui va être adapté en long-métrage, réécrit par son professeur qui a une durée pharaonique, enfin en tout cas qui a un nombre de pages assez pharaonique. Et c'est tout. Et maintenant, comme on a dit qu'il y avait de plus en plus de protagonistes, enfin beaucoup plus de protagonistes par rapport au court-métrage, il va falloir trouver les acteurs et l'équipe pour la constituer.
Exactement. Le casting se compose à quelques exceptions près en fait, de comédiens, parmi lesquels on va avoir très peu d'expérience cinématographique. Si pour la plupart, d'ailleurs, ça a été aussi pour certains la dernière, d'autres ont quand même réussi à s'imposer, notamment dans le domaine de second rôle. Notamment, on voit par exemple James Lawrence. Alors James Lawrence, qui joue le chauffeur du mafieux, donc qui notamment se fait vilipender parce que sa femme a été tuée. Sa copine, non, la copine du mafieux, je sais plus si c'est...
C'est la femme du mafieux qui se fait... Enfin, non, qui se fait pas kidnapper du tout, d'ailleurs.
Non, elle était bourrée.
Bon, elle finit violée en groupe et tuée à la... Voilà, c'est son fin de parcours à elle, et en tout cas, et c'est en partie, en tout cas, c'est ce que dit le mafieux, à cause du portier qui est joué par
James Lawrence, on va le retrouver notamment, Bashir Lennoter, qui va jouer dans Frankenhooker, Tony Darrow, le mafieux, donc, qui joue Tony Durant, c'est un mafieux qu'on va retrouver plus tard. Donc, dans d'autres rôles de mafieux, dans Les Affranchis, dans Les Sopranos, dans Mafia Blues, alors qu'à la base, c'est un comédien de stand-up, comme tu me disais.
Absolument, ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été dégoté, et ça fait partie, de toute façon, on reverra après quand on rentrera plus dans le film, mais il y a des acteurs, comme tu dis, il y avait des acteurs et des non-acteurs à l'intérieur du film.
Oui, ça a changé, notamment pour l'acteur principal, donc...
En tout cas, le personnage de Fred, le premier clochard qu'on voit dans le film, lui c'est carrément c'était un ami du réal et il était maquilleur quoi.
Ce n'était pas en fait l'acteur qui était prévu parce qu'finalement il est parti en cure de désintox.
Absolument, c'était un toxico, il n'est pas venu parce que certainement c'était un toxico. Mais donc il y a lui qui est venu, en tout cas il y avait acteurs et non acteurs et surtout il y avait différentes écoles d'acteurs à l'intérieur de ça. Et les deux qu'on vient de citer, James Lawry et Tony Darrow, eux étaient beaucoup plus enclins à l'improvisation en tout cas. Et ce qui fait que, par exemple, ça a donné des scènes qui n'étaient pas du tout écrites par Frumkes et qu'ils ont gardées pour permettre. Ils en ont même réécrit d'autres qu'ils ont gardées dans le film, pour le coup, à la fin, pour les permettre aux acteurs d'improviser. Voilà. Donc, on a vraiment tout ce melting pot d'artistes-là qui se réunissent, en tout cas, mais avec aussi d'autres acteurs qui étaient habitués à ce mouvement de série bis, voire série Z de chez Troma, par exemple.
Pat Ryan, qui joue le chef de la casse, qui est un habitué de chez Troma, en fait.
Absolument.
Donc, et qui a un peu le physique pour aussi,
c'est l'américain l'américain obèse dans tout ce qu'on peut avoir de représentation dans notre esprit, qui joue, comme à son habitude, un gros dégueulasse, quoi, en fait.
Tout simplement, quoi. Ou même encore Bill Chappell, alors lui le policier, donc Bill le policier qui en fait joue presque son vrai rôle en fait à la base, parce que c'est un ancien flic.
Complètement.
Et lui il a une autre histoire après à la fin qui est un peu différente, mais c'est
hyper intéressant, ce Bill Chappell, donc qui a été un vrai flic et qui a eu affaire à un vrai flic à New York, quoi, donc on vous laisse imaginer
qui connaît un petit peu l'histoire,
qui a eu affaire à plein de choses sordides, etc., et qui est, mais je pense même dans la vraie vie, un peu ce qu'on peut imaginer d'un Charles Bronson, d'un justicier dans la ville, quoi, vraiment le mec
parce qu'il y a quand même une scène, il faut quand même l'expliquer, où il va donc s'attaquer à un mec dans les chiottes
et quand il a fini de le
rosser, fracasser, faire vomir pour
le gerber dessus, quoi, super gerber dessus, ouais, donc voilà. En tout cas, il a toujours dit, ça me fait énormément rire de reprendre un rôle de flic par rapport à ce qu'il a joué avant. Et il n'avait jamais été acteur. Et d'ailleurs, la première scène qu'il a fait, c'était justement avec Ryan, qui est un habitué de Troma, qui est une personne qui l'a très vite pris par la main. Parce qu'évidemment, t'as beau être flic, quand il s'agit d'être acteur, c'est encore autre chose, quoi.
Surtout que son personnage, c'est quand même un sacré personnage, le policier qui... qui enquête, qui veut buter, qui est un peu misogyne sur les bords un peu
peut-être
partout.
Peut-être qu'on peut essayer de dire deux, trois éléments de l'histoire de Street Trash parce que...
Parlons un peu de... Un peu plus
pour résumer un peu le film.
Parce que c'est vrai que l'histoire, comment dire, c'est un... Voilà, il n'y a pas personnage principal, on est vraiment sur un lieu de vie, c'est l'histoire donc dans un quartier de Brooklyn, le tenancier d'un magasin de boissons alcoolisées découvre caché derrière une paroi de sa boutique une caisse de flacons que se nomme Viper. Il vend donc ses bouteilles à des clochards donc, qui vivent dans une case de voiture partiellement reconvertie en véritable bidonville. Et donc les premiers vagabonds à consommer ce mystérieux breuvage vont en avoir pour leurs frais. Il s'agit en fait d'un violent poison qui a comme effet secondaire en fait de les liquéfier vivants.
Voilà, donc ça c'est le fil rouge maintenant.
Voilà.
Ça c'est le fil rouge du film qui s'accélère un peu vers la fin. Et sinon en même temps, on a quoi ? On a l'histoire de ce flic qui essaye de faire le ménage dans New York.
C'est ça.
On a donc l'histoire de Bronson, le chef des clodos, qui est un vétéran du Vietnam et qui mène tous ses clodos avec son esclave sexuel qui est joué par. L'incroyable Nicole Potter, moi je la trouve incroyable, cette actrice. Et on a en même temps l'histoire de ce mafieux qui perd sa femme et qui accuse un portier et du coup une espèce
de retrouver qui a tué parmi les clodos
en fait.
Ouais, puis
d'arche narrative de mafia en
c'est
fait,
ça,
de
ouais,
mafieux
voilà,
tout
c'est
simplement.
Ça, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'on... Oh, je crois que j'en oublie. Enfin bref, c'est...
Bah, on a aussi les deux frangins en fait au début. Donc,
les deux frangins, bien sûr, qui sont presque ceux qu'on rencontre en premier. Oui.
Voilà, bien sûr. Donc ils sont un peu paumés dans cette ville, qui sont un peu, on va dire, des nouveaux dans ce milieu de SDF, d'abandonnés, de marginaux. Et donc, l'un essaye quand même de garder un semblant d'humanité, pendant que l'autre plonge peu à peu, en fait, dans cette complaisance de la crasse, en fait.
Ouais. Et puis, il y a un autre clochard, Burt, qui est un des potes aussi, qu'on voit piller le supermarché,
qui a un masque à gaz. Et puis, on a par exemple Wheezy, qui est donc un des bras droits de Bronson, qui veut essayer de retrouver donc le grand frère de l'autre parce qu'il lui a piqué $3.
Exactement. Donc ça, en fait, c'est surtout pour vous dire que tous ces éléments sont dus au fait, encore une fois, d'un film qui a été amputé d'une heure de ce qu'il a été écrit. Et donc, en reste des bribes. Il y a forcément des bribes de choses qui ont certainement eu beaucoup plus de profondeur et d'écriture, mais qui sont comme là. Mais ça ne rend pas le film incompréhensible et regardable pour autant.
Non.
Et du coup, ce qui fait que, on y reviendra, mais pour moi, le vrai personnage principal de Street Trash, c'est Brooklyn, c'est New York en fait, c'est le quartier dans lequel se passe...
La force de Jim Murrow, et ça on peut commencer à parler du film, parce que finalement quand l'underground devient un élément contre-culturel, c'est la grande force du film. C'est cette façon de montrer ce milieu, d'ailleurs c'est un porte-étendard du milieu underground, je trouve, un Street Trash dans les années 80. C'est un parfait représentant du cinéma contre-culturel reaganien, et il a cette faculté en fait de montrer en avant donc les marginaux, parce que c'est un peu l'histoire de ça aussi. Ça montre en avant donc ces films, ces personnages en fait
qui sont jamais mis en avant
dans d'autres films. D'ailleurs Jim Murrow dit qu'à la base en fait ce qu'il voulait faire avec Street Trash en fait c'était par le biais d'influences de réalisateurs underground comme John Waters ou même Ross Meyer. Frumkes parle forcément en tant que scénariste et en tant que producteur lui de d'autres films, notamment de Dodeskaden de Akira Kurosawa, parce que ça parle aussi forcément des bidonvilles japonais.
C'est vrai. Il y a même une réplique référence dans le film, je sais plus laquelle, mais
et forcément sur la situation des marginaux, on peut penser aussi à d'autres films comme par exemple Los Olvidados de Buñuel ou encore A Frusa les méchants d'Ettore Scola.
Il y a pas mal de moments, mais alors après c'est compliqué de se dire lesquels sont vraiment conscients ou pas de la part de Murrow et de Frumkes, mais en tout cas il y a des moments qui se rapprochent le plus pour moi de comédie italienne à la comme tu dis, ça les méchants
il y a un côté à la fois très graphique mais aussi quand même très ironique sur la situation sociale des personnages.
Alors ça pour c'est le côté social, mais surtout c'est un mélange. John Waters est très juste parce que pour moi il y a quand même de ça dans le film, de quelque chose d'organique et de puant et de mauvais goût, quoi, vraiment.
Voilà.
Le mauvais goût est là.
Plus loin, mais c'est fait exprès parce que.
C'est fait exprès et en même temps.
Frumkes disait lui-même, en fait, quand il a élaboré le scénario, en fait, avec ce script, je voulais choquer toutes les communautés de la planète et ce, en toute démocratie.
Ouais, mais ça, mais
c'est sa phrase de prédilection pour parler de ce film. Hein,
ouais, et elle est bonne à rappeler parce que, en fait, on peut vite se dire, tiens, street trash, on met en avant des hommes et des femmes qui sont à la rue, qui, voilà, donc il va très, en fait, très vite, il y a des gens qui peuvent le mettre sur le trouver un peu marxiste presque, alors que
oui.
Non, d'ailleurs Frumkis disait, moi je voulais même que les clochards viennent manifester devant le cinéma en voyant ce film, il y a personne n'est à sauver, vraiment c'est vraiment du film misanthrope, quoi, vraiment il y a personne qui est à sauver, ils sont tous dégueulasses, quoi.
En fait, si en surface on peut voir comme une satire politique acerbe, c'est surtout un défouloir et un pied de nez à ce que j'appellerais le tout commun hollywoodien, en fait. Le film est aux antipodes de tout ce que pouvait faire la bonne morale américaine dans son cinéma d'or, en fait.
Ah bah,
et là on est très très loin de ça, en fait. Et c'est vrai que là on est vraiment, comme je le disais, en fait, dans cette contre-culture iganienne, Murrow, en fait, a voulu faire un peu comme légalement, en fait, d'autres réalisateurs dans les années 80, comme William Lustig avec Maniac, comme le Douglas Cheek dans Chud, ou Frankenheimer, comme on en a parlé avant, avec Brain Damage ou Frankenhooker, pardon. Il arrive à montrer à perfection, en fait, du New York glauque est réputé comme extrêmement dangereux à cette période, en fait.
Oui, mais
c'est-à-dire qu'il y a vraiment des lieux, des rues où, en fait, il n'y a rien, c'est le vide total.
Ah bah, alors, il y a quand même... alors, il y a deux choses. Il y a très rapidement, on a l'impression de regarder un film post-apo, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est dans ces rues-là, on suit que des clochards, on voit très très peu d'autres citoyens, et les peu qu'on voit, c'est ceux qui ont le malheur qui veulent pas s'arrêter au feu rouge parce que c'est trop dangereux. Et quand ils s'arrêtent, effectivement, ils se font dégommer la tronche.
Comme avec Bronson.
Exactement. Et sinon, c'est que des rues vides, et c'est cette décharge automobile qui est un décor assez génial pour parler d'une chute de civilisationnelle, quoi. Où se passe, on fait des maisons dans des voitures, c'est marrant, on a fait la George Miller il n'y a pas très longtemps,
voilà.
On en revient quand même à cette imagerie-là. Et il y a aussi un autre élément qui est important, qui fait que c'est pas Maniac, c'est pas du Lustig, c'est un film burlesque,
c'est
street
ça.
Trash. Avec la comédie a vraiment un rôle très important, en tout cas une place très importante, et il emprunte, moi je trouve, beaucoup. Alors il y a la fameuse, je vais prendre en exemple cette fameuse scène de passe avec la bite coupée. Comme ça, on en aura parlé, c'est fait. C'est-à-dire que le personnage de Bronson, le chef des clodos, se met à couper la bite de quelqu'un qui voulait pisser dessus par un trou. Bref, voilà. C'est toujours très marrant de résumer street trash. Et s'ensuit, du coup, un grand moment où il se passe le pénis et ça vole dans tous les sens. Bref, ce moment-là est hyper burlesque. Déjà parce qu'il met une musique un peu rigolote.
Voilà aussi. Ouais. Alors que la musique de base est quand même beaucoup plus portée sur des synthés un peu plus sombre et compagnie.
Ouais.
Et là, le film, en fait, craque complètement.
Ah ben complètement. Et puis, il y a... ça se traduit par les corps des acteurs, en fait. Ils sont tous dans un jeu qui est vraiment... C'est presque du Chaplin et du Keaton, quoi, en fait, dans cette direction d'acteur. Et qui n'est pas juste pour cette scène-là, d'ailleurs, qui, en fait... je finis avec cette scène-là, après j'ai plus loin.
Oui,
en fait, il se passe, et le mec qui a eu la bite coupée finit sur un bus en s'échappant pour aller à l'hôpital parce que le taxi n'a pas voulu le prendre. Bref, c'est un sketch de Buster Keaton, quoi, tu vois, en plein milieu de ce truc de mauvais goût, quoi. Bah, alors, la séquence est de mauvais goût, on va pas se mentir, mais en tout cas, il y a ce code de jeu-là. Et pour en venir au burlesque, tout le temps de film, en fait, c'est soit des gens qui courent tout le temps et qui courent avec tout leur corps, soit des gens qui se cassent la gueule, soit des gens qui finissent dans des pare-brises, etc. Et en fait, il y a des corps qui sont à la fois des corps qui sont malmenés et qui sont, du coup, qui portent le comique du film aussi.
C'est
dans
ça,
Street Trash.
Mais en fait, le point de départ de Street Trash dénote, en fait, tout ce que l'on parle actuellement, en fait, c'est quasiment dès le départ, en fait. Le point de départ donc, de Street Trash, ça dénote donc déjà directement un argument surnaturel avec le Viper.
Ouais.
Mais en fait, qui va forcément ouvrir la voie en fait, de l'effet gore, en fait, qui va faire la célébrité du film. C'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir que Sally Dee Caffey est en fait, pour éviter une quelconque censure très violente, comme l'a été dans d'autres films dans les années 70-80, notamment donc Murrow, quand il a voulu faire ce film, il a pensé à d'autres films comme par exemple I Drink Your Blood et il voulait pas t'interdire au moins de 18 ans comme I Drink Your Blood. Donc, éviter. Absolument de mettre du rouge partout et de mettre des effets multicolores quand les gens fondent.
Et ça, c'est la brillante idée de street trash, qui est au-delà d'éviter une censure donne cette caractéristique et cette singularité vraiment à Street Trash. C'est-à-dire que tous ces hommes et femmes d'ailleurs, en fait, parce qu'il y a aussi Winnet qui font, qui boivent la Viper, se mettent à fondre. Alors, et en plus, il n'y en a pas un qui fond de la même manière. C'est là qu'ils se sont éclatés. Celui qui est le plus bedonnant va gonfler, exploser. Le premier va fondre dans les chiottes pour finir dans une espèce d'étron, quoi, là, avec la main qui reste accrochée. Winnet va avoir tout le liquide qui sort de ses seins jusqu'à fondre et n'avoir que la tête, avec des vrais moments de bravoure. Moi, qui à chaque fois que je le revois, je suis ébahi par la technique qu'ils ont fait pour faire fondre les effets de la Viper.
Par exemple, le premier qu'on voit donc mourir, qui est donc le gars qui a volé le Viper au personnage principal, enfin au grand frère.
Ouais.
J'ai oublié à chaque fois le nom du personnage, pour ça je dis grand frère.
C'est Fred.
Voilà. Et en fait, tous les effets sont hyper bien faits parce qu'en fait, il faut également le dire, et là j'ai envie de revenir là-dessus, c'est forcément la technique de Meurot à travers donc sa mise en scène et son montage, parce que finalement, en fait, c'est un effet de presque de, pas de champ contre champ, mais en fait on va voir les différentes étapes entrecoupées forcément par le lieu environnant de chaque personnage en fait.
Oui, exactement. Et
par
avec
exemple même la menace du gros qui va exploser, on le voit donc avec l'autre personnage, donc le grand frère comme je disais, qui lui va carrément en fait voir la menace arriver au fur et à mesure et partir au-dessus de la voiture comme un peu dans les vieux sketchs de films de police pour éviter les balles, mais lui c'est pour éviter les tripailles.
Complètement. Et des tripailles pour le gros qui explose, les tripailles qui ont été faits pour l'anecdote avec plein de restes de biscuits de l'équipe qui étaient dégueulasses et qu'ils ne voulaient plus manger. Donc en partie de la fausse tripaille qui a été faite avec du maquillage, quoi. Voilà, on a des biscuits. Mais en tout cas, pour revenir à ces histoires de couleurs, il y a vraiment quelque chose de presque de peinture qui se met en place devant nos yeux, quoi. Qui est pas juste une effusion de sang, mais juste c'est presque un manifeste artistique à partir des éléments gore, essayer de créer de l'art et autre chose, et du coup on n'a pas d'équivalent encore aujourd'hui de cette manière de montrer du gore que dans Street Trash en fait. Grâce à ça,
En fait c'est là où je pense en fait l'influence aussi à travers ça, c'est plus non pas relié à travers différents films comme on a parlé avant, mais en fait de l'influence des comics horrifiques américains et notamment de la littérature pulp comme l'a été autrefois avec George Romero ou même encore Dan O'Bannon avec Le Retour des Morts Vivants, je dirais surtout forcément d'autres réalisateurs plus connus comme Stuart Gordon avec Reanimator et encore et surtout Sam Raimi avec Evil Dead.
Ouais, complètement, qui sont alors surtout Sam Raimi et Peter Jackson par exemple des
aussi oui Peter Jackson faut pas l'oublier
du burlesque gore en tout cas du film
totalement
comique,
rien qu'avec Bad Taste ou encore Branded,
grande figure de proue aussi, qui mériterait une émission à part entière aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que on pense beaucoup à la bande dessinée, quoi, à la BD dans Street Trash. Déjà dans cette manière de dessiner chaque personnage. En tout cas, on retient pas forcément les noms. Par contre, on les voit, on reconnaît tout de suite qui c'est. On sait tout de suite dans quel milieu il est, etc. Et par rapport à un film qui est presque un film choral tellement il y a de personnages. C'est vraiment très très fort. Et après, alors il y a tous des déchaînements de couleurs gore qu'on a dit effectivement, mais chaque lieu aussi résulte d'un travail de décoration assez incroyable. Il y a la décharge et notamment la maison dans laquelle vivent les deux frangins, qui encore une fois c'est une voiture qui est plaquée contre des pneus.
Contre des pneus, c'est tout.
S'ouvre et à l'intérieur il y a tout un appartement qui est mis en place. Enfin, appartement dans des pneus, attention, mais qui est mis en place. Il est vraiment très très fort. Et surtout, c'est drôle, Street Trash, je pense que adapter en BD, ce serait pas compliqué parce que les dialogues, il n'y en a pas besoin en fait. Je pense que tu mets Street Trash, t'enlèves le son, tu comprends quand même tout ce qui se passe, quoi. Parce que les éléments sont bien reliés.
C'est parce que le film aussi est d'une clarté incroyable en fait. Là, il faut en revenir un petit peu là-dessus, c'est que Jim Murrow, en fait, on a parlé qu'il était Steadicammer. Et il a perfectionné son travail de Steadicammer pendant ce film en fait. Parce qu'il y a des plans, il y a une visibilité, une lisibilité et des mouvements qui fait que en fait Street Trash n'est pas n'importe quel, on va dire, désolé du terme, un peu série B, un peu vulgaire comme l'a été certains traumas ou autres. Non, Street Trash vraiment dénote des autres par sa qualité visuelle.
Bah, c'est pas la même démarche. De toute façon, Trauma, on est dans du Z, revendiqué. Là où Jim Murrow n'a jamais voulu faire un film Z, pour moi. Il a toujours vraiment une vraie volonté ambitieuse de faire un vrai bis avec Street Trash. Un bis méchant, certes, mais un bis quand même. Sa phrase ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs, puisqu'un bis ne veut pas forcément dire grand-chose. Bref, vous m'avez compris, en tout cas. Ce qui fait que... dès le début du film, comme tu dis, il y a cette course-poursuite avec le personnage principal de... Enfin, on va arrêter de dire ça. L'un des deux frangins, Fred, qui vient de choper ça, d'avoir de l'argent et s'enfuit en courant, il y a une course-poursuite à pied. Tout de suite, on se dit « Ah, il y a quand même un vrai metteur en scène et un vrai réal, en tout cas un très bon technicien, qui est derrière ce film. » Et là, même en le revoyant avec la sublime réédition qu'ils ont fait là à ESC... voir le travail de composition de certains plans et surtout les choix de couleurs, c'est un film qui est paradoxalement aussi magnifique à regarder que repoussant sur plein d'aspects, en tout cas. Ouais. Mais d'un point de vue cinématographique, moi, je le trouve très beau, quoi, quand même, Street Trash.
Mais Street Trash, en fait, il a une qualité visuelle. Et je dirais même, en fait, c'est un film, c'est peut-être aussi peut-être un reproche, mais je trouve que ça reste un plaisir coupable là-dessus, c'est qu'en fait le film, des fois on se demande en fait où veut-il aller, parce qu'en fait on a vraiment l'impression de partir vraiment sur le côté ultra trash d'un côté comme la scène de la bite et compagnie, et d'autres même d'ailleurs qui sont très très sales, hein, parce que le film va parler même de nécrophilie ou autre, et d'un autre côté en fait on se dit tain, mais il y a vraiment des aspects presque enjeux social qui sont mis en avant, qui pourraient être mis en avant, et d'un autre côté on a ce véritable défouloir, et pareil pour le côté visuel, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une qualité de technique incroyable, et d'un autre côté, en fait, on est vraiment sur, je dirais pas le festival de la saucisse, mais vraiment le côté on va foutre des couleurs partout, quoi.
Ouais, et du coup, ce qui fait que paradoxalement, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de Street Trash, c'est la Viper. Et c'est, comme on a dit, c'est ces effusions de couleurs qu'il y a aux effets gore. Mais pour moi, c'est les moments récréatifs du film.
Oui.
Tout le reste, il n'y a rien de récréatif.
Non.
Vraiment, tout ce qui peut se passer dans le film, c'est vraiment repoussant, quoi. Mmh. Toujours en ayant conscience de la direction burlesque que peut prendre Jim Murrow, mais quand même...
Soit le personnage de Frank Schneiser, donc campé par Pat Ryan, qui est une saloperie monstrueuse. Bronson, qui est un personnage qui est assez intéressant dans l'histoire, parce qu'en fait, ça va développer le principe du PTSD, donc du Vietnam, donc le syndrome post-traumatique qu'ont les soldats. On a même...
Qui est un psychopathe fini. Hein,
oui, mais totalement psychopathe. Mais il n'y a personne à sauver, en fait. Peut-être à part le jeune Kevin, qui est un peu le personnage le plus innocent de tous les bords, mais qui finalement, lui aussi, a ses propres péchés. Parce que finalement, en fait, il aimerait bien fricoter avec Wendy.
Ah ben complètement.
Voilà.
Ah oui. C'est-à-dire, c'est le cul et la bite. Voilà. C'est tout
ça.
Ce que définit Street Trash, et donc c'est ce qui va motiver tous les personnages. Voilà. Donc à un moment donné, il y a juste ceux qu'on voit faire des actions abjectes et ceux qu'on ne les voit pas faire. Mais ça s'arrête là. Et encore en le revoyant, j'ai été assez surpris de voir. Le film ne montre pas grand-chose, en fait, à part ces moments où les gens fondent en vivant de la Viper. Sinon, la nécrophilie, c'est hors champ. J'avais un doute en le revoyant. Mais
non.
La scène où la femme du mafieux, justement, se fait violer par tous les clochards, on ne la voit pas non plus. Et en fait, c'est marrant, il y a quand même, de la part de Jim Murrow, une vulgaire, mais pas non plus... Et pas tant, finalement, en fait. Et c'est en ça, par exemple, que je trouve que, quand bien même le film est assez misanthrope, parce que personne n'est à sauver dans le film, c'est pas quelqu'un qui se complaît dans cette misanthropie. Ni de la pomme de Frobkis, tu vois. Ça change... pas pourquoi je pense à lui, mais Adeland Timos aujourd'hui qui en font des tonnes et puis qui font regarder comme je suis misanthrope, comme c'est rigolo et comment je me complais là-dedans. Et pour moi, c'est tout l'inverse avec Street Trash, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de Jim Murrow et de Frumkeys au scénario de dessiner tout ce qu'ils ont envie de dire sur l'Amérique de l'époque.
Oui, puis contrairement à Yorgos Lanthimos, en fait, voilà, il arrive à poser un cadre, en fait.
Ouais, complètement.
Et un cadre et un contexte, soit d'une période, ou soit même de l'aspect contemporain, parce que finalement, le film est contemporain à son époque.
Ouais, complètement.
À sa sortie.
Et puis de remettre un peu les choses au point, c'est-à-dire de, bah voilà, Brooklyn, à l'époque où on était, ben, c'était comme ça. Jim Murrow, qui a lui-même vécu à la rue pendant un temps, pour je ne sais plus quelle raison, c'est un peu de quoi il parle quand même. C'est-à-dire que tout couvert de ce film bis et burlesque, il y a quand même des choses qu'ils ont profondément envie de mettre en avant. C'est le cas avec avec Bronson qui revient de la guerre du Vietnam, qui est ce que, selon Dee Fremkes, une véritable réponse au Rambo qu'il trouvait nul, quoi.
Voilà, vraiment. Ouais, clairement.
Mais dès le premier Rambo, ça, franchement, moi j'ai vraiment vécu avec quelqu'un qui a craqué comme ça, et c'est pas Rambo, quoi.
Ah,
vraiment
non,
pas.
Non.
Effectivement, donc et c'est marrant parce que sous couvert de ça, Fremkes a l'intelligence dans son scénar de reprendre presque tous les clichés du cinéma américain de l'époque.
Oui.
Avec la trame du mafieux, on a déjà vu ça 100 fois, le mec qui revient du Vietnam aussi, avec le flic qu'il a joué à la Charles Bronson, c'est pareil, mais en les faisant tous confrontés au milieu de tous ces clochards qui sont
presque
des revues.
Un peu pour se foutre de la gueule en fait des héros de Reagan en fait.
Complètement. Et c'est de toute façon, c'est tous des héros qui ont été en réaction ou sont apparus avec Ronald Reagan.
Oui, oui.
Le soldat du Vietnam hyper badass
qui revient de la guerre,
le justicier qui fait justice tout seul, voilà, et qui se confrontent et qui finissent tous par crever dans le film
de toute façon. Oui, clairement.
D'ailleurs, c'est marrant parce que Bronson, donc le mec qui vient du Vietnam, et le flic s'entretuent, en fait, se foutent sur la gueule, quoi, au bout d'un moment.
Bronson avec son couteau en forme de fémur.
Taillé dans un vrai fémur. Et d'ailleurs, qui perd et qui retaille dans le fémur du flic après, bon, bref.
Ouais.
Voilà. Et qui finit à la fin explosé par une bouteille de gaz envoyée à
Et je trouve que c'est un des effets gore les plus impressionnants du film.
Oui. Alors, c'est à la fin, c'est donc, il y a le combat avec. Fred, donc le clochard principal, entre guillemets.
Et Kevin, en fait, pour protéger son frère, donc va sortir une bourbonne de gaz.
Une bouteille de gaz. Une grosse, une grosse. Il lui pète et la tête va virevolter. Et du coup, à la fin, donc, énième mauvais goût du film.
Bronson, malgré qu'il soit décapité, peut enfin voir sous la culotte de Wendy qui passe au-dessus de lui.
Wendy saute au-dessus de lui et du coup, il est là avec sa tête, il est un peu perdu, etc. Il lève les yeux, il voit sous la culotte et tu le vois sourire, cette tête en animatronique, voilà. Donc, sous couvert de la blague et de la bisserie, quoi, tu vois, il y a quand même un morceau de bravoure pour un film qui, je le rappelle, a coûté dans les 400 ou 500 000 dollars au total.
À peu près 550 000 dollars.
C'est très compliqué de le dire, mais
c'est vrai que
la
plupart du budget donc, a été envoyé forcément les effets spéciaux. Et c'est vrai qu'il faut quand même dire que Jennifer Aspinall, donc, qui s'est occupée notamment de tous ces effets-là, d'ailleurs qui est une des pointures de l'écurie Troma, a pu vraiment s'arracher, développer toutes les couleurs vives qui, sur les différents corps qui giclent, qui liquéfient, et qui a même pu s'amuser aussi avec le personnage donc, de Bronson en faisant vraiment ce côté où il y a vraiment la partie au-dessus qui a arraché complet, quoi,
qui fonctionne,
qui fait un espèce de V sur le reste du tronc. Enfin,
c'est un morceau de bravoure. Et malgré tout, ce qu'on voit dans le film n'est pas du tout ce qu'ils voulaient.
Oui.
Pour l'anecdote, elle avait donc mis en place cette tête en animatronique, qui est vraiment moulée sur la tête de l'acteur. Et première fois, ça marche très très bien, mais la caméra s'enraye. Et du coup, ils sont obligés de recommencer. Le temps de réparer la caméra, hop, il relance. Sauf que en relançant, là, c'était la tête où le liquide, le faux sang qu'il y avait, est venu un peu enrayer la tête. Et du coup, l'effet qu'on voit dans le film, qui fonctionne très bien, et qu'on vient de vanter toutes les qualités de cet effet, et n'est pas aussi bien que ce qu'ils avaient prévu et ce qu'on aurait vu au premier plan. Voilà. Mais voilà, c'est pour dire, c'est de la petite production. Il y a aussi tout un temps de tournage qui a été retardé parce que la caméra, ils l'ont pété sur un steadicam, sur le premier plan du film. Le tout début du film où le premier clochard fond sur les toilettes. Il y a ce plan de steadicam qui passe de toutes les ruines pour aller dans les toilettes.
Aller le retrouver.
Sauf qu'il y a une double porte qui s'est pas ouverte correctement. Paf, la caméra caméra à toute vitesse s'est pété dessus. Et ils ont dû attendre, je crois, un jour, deux peut-être, avant qu'elle revienne. Ils l'avaient envoyée en avion, elle revienne. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est sur une petite production, quoi.
Oui,
voilà.
Totalement. Ça reste une méga petite production. C'est les productions fauchées de l'époque, des séries B, et qui forcément a qu'un seul but, c'est de marcher non pas sur, comme on va en parler, donc les sorties salles, mais forcément les sorties VHS.
Alors,
c'est vrai donc, à sa sortie donc limitée en salle, parlons-en donc, parce que finalement c'est une œuvre devenue culte quasiment à sa sortie, je dis bien quasiment, parce que finalement à sa sortie limitée en salle, le film reçoit quand même des critiques plutôt positives de la part de la presse spécialisée, même si certains trouvent qu'il est assez laborieux, qu'il est assez hésitant dans sa narration, comme on en a parlé forcément, hein, le film est un vrai patchwork en fait de Brooklyn, et ne se concentre pas uniquement forcément sur différentes histoires, donc c'est un film qu'il faut apprécier, je pense, par son ambiance plus que par l'histoire, forcément. C'est une série B déjà de toute manière, même si je dis pas forcément que les séries B, il faut toujours. Enfin, il y a quand même des scénarios ultra élaborés, ultra bien écrits dans les séries B. C'est pas forcément un des gros reproches. Mais c'est vrai que. Donc, Street Trash, ça va marcher, surtout parce que le film va devenir instantanément, immensément plutôt culte, lors de sa sortie VHS. Et la même année, donc en 87, hein, donc ils n'ont pas perdu de temps, et il devient forcément une des figures de pro des séries B fauchées, telles que l'a été notamment Sam Raimi avec Evil Dead 1 et 2, et encore Bad Taste avec les premiers Peter Jackson également.
Ouais. Complètement. Sachant, ouais, alors comment ça s'est passé, dès que le film s'est fini, etc., Fremkis qui va à Cannes, au marché du film, il arrive à trouver deux acheteurs, quoi, voilà, seulement. Mmh. Et puis, il y a quelques avant-premières qui sont très très drôles à revoir avec toute l'équipe qui est en costard. Donc, déjà, c'est drôle de voir tous ces acteurs en costard, loin du maquillage qu'on leur a fait dans le film. Et qui défilent pour aller dans le film sur certains avec le camion poubelle du début. Ils sont tous accrochés au camion poubelle pour faire la promo. Très marrant. Bref, et il y a ça. Et puis, c'est surtout en festival qu'il est un peu repéré en Europe. À Avoriaz, il fait un peu de l'effet.
Oui, à Avoriaz. Donc, il repart à Avoriaz avec un prix. Il est même distribué en salle par Metropolitan Film Export en juin 87. Donc, Street Trash avait marqué même outre les États-Unis.
Complètement. Et avec des séances de minuit. Et le film, comme tu dis.
Comme à l'époque.
En tout cas, il est remarqué et il frappe tout de suite. Déjà, il a une réputation qui est en grande partie due au travail, je ne sais plus son nom, je suis bien désolé, mais au travail qu'a fait l'artiste qui a fait les affiches, qui était... alors en France, c'est ça, la caméra, c'est les deux pieds qui sont explosés. Et aux États-Unis, c'est vraiment juste le plan du chiotte dans lequel le clochard, le premier, meurt et qui est déjà toute colorée, qui est déjà toute violette et qui fait que ça intrigue. Les gens sont intrigués par cette image. Et en tout cas, il fait du bruit aussi par rapport aux gens qui l'ont vu et qui sont ravis de la qualité de mise en scène et artistique du film.
Ouais.
En tout cas. Et il commence à faire du bruit comme ça. Mais comme tu dis, bien sûr, ça reste un film... bis avec très peu de distribution. Et c'est vraiment quand il sort en VHS qu'il fait qu'il commence vraiment à faire un tabac et devient, je crois qu'il a été dans les 40 films les plus loués à l'époque. Tout le monde se le passait dans le monde entier, quoi.
Oui, non, c'est un film qui a extrêmement marché par le biais forcément d'avant les réseaux sociaux, donc c'était forcément le principe du bouche à oreille, et qui marchait très bien, surtout dans le marché, dans le milieu spécialisé donc, du cinéma d'horreur, comme on en parlait. C'est un milieu qui a une importance phénoménale dans sa façon de propager très rapidement un film, en fait.
Oui.
Et c'est vrai qu'en fait... c'est un film qui va garder son statut culte malgré le fait, et là il faut revenir là-dessus, donc malgré le fait qu'en fait, très vite après sa sortie, Jim Murrow va renier le film.
Eh oui! Et en fait, donc, parce que depuis le début, on parle d'un seul et unique film pour Monsieur Jim Murrow.
Car il en a fait qu'un seul durant toute sa carrière.
Et ouais, c'est celui-là. C'est son Nuit du chasseur, quoi, en gros.
Ah bah oui, là, on peut le mettre même du même niveau que Charlton.
Complètement. Oui, très rapidement, il va renier le film pour des raisons qu'on ne peut pas vous dire, en fait, parce qu'elles sont encore très
inconnues. Jim Murrow va totalement renier le film. Il va avouer et considérer... encore et toujours ce film comme un péché de jeunesse. En fait, il va quitter New York, il va quitter donc le milieu underground artistique new-yorkais pour s'installer à Hollywood, alors que finalement le film était contrairement très critique envers le milieu hollywoodien finalement. Et c'est vrai que les raisons en fait de la version du new-yorkais pour son premier vrai travail de réalisateur sont assez obscures. Alors il y a beaucoup énormément de théories qui ont circulé pour justifier ce déshéritement. Alors la plus répandue vient du fait qu'en fait Jim Murrow aurait emprunté des fonds à la mafia de la ville pour produire son film, et qu'en fait au vu de la représentation de la mafia dans ce film et au vu du peu de résultats en salle de Street Trash, ça lui aurait valu quelques menaces, et ouais. Jim Murrow aurait donc promis de ne plus faire de film à travers ces menaces. Et une autre viendrait également du fait qu'en fait il aurait intégré une secte qui refuse toute forme de violence et qui forcément ne correspond plus à l'éthique, ou correspondrait plus à l'éthique de Jim Murrow actuellement.
Oui, alors bon, tout ça c'est des théories, on n'en sait rien, même Frumkeys aujourd'hui...
Frumkeys a même fait un documentaire qui s'appelle Meltdown Madness, qui revient sur l'histoire de Street Trash. Jim Murrow est totalement absent du documentaire.
Il n'y a que les images d'archives de l'époque, voilà. Il n'est pas là, c'est le seul de toute l'équipe du film qu'on ne revoit pas dans le documentaire.
Il ne veut plus en entendre parler, durant les interviews il ne veut pas qu'on entende parler de Street Trash.
Non.
C'est quelqu'un qui est resté totalement... Absent dans ce contexte maintenant actuel.
Renier. Alors lui a toujours quand même dit au début que c'était une représentation des hommes, des clochards, qu'il ne souhaitait plus qu'on lui parle, qu'il n'assume plus aujourd'hui. Voilà, en tout cas. Là où Frumkeys est encore très très fier de ce film, et d'ailleurs il a grandement participé à la restauration encore aujourd'hui. Mais Jim Murrow, non. Voilà, on ne sait pas. Voilà, c'est vraiment des théories qui courent. En tout cas, il n'a plus du tout réalisé de film. En revanche, c'est devenu encore aujourd'hui un des meilleurs techniciens de cinéma au monde.
Exactement, comme je l'ai dit, donc, il s'est installé vers Hollywood, et Hollywood, en fait, il est devenu un excellent opérateur Steadicam. Comme je le disais, donc, Murrow est un fin gourmet de la technique cinématographique. Et donc, en fait, il va notamment collaborer avec quelques petits noms du cinéma hollywoodien, notamment, par exemple, James Cameron. Il va notamment travailler en tant que opérateur Steadicammer donc sur Terminator, sur Aliens, également sur Titanic ou encore le premier Avatar. On va le retrouver même également chez Martin Scorsese sur Casino. Et c'est vrai qu'en fait, Murrow...
Donc si tu te souviens un peu des plans de Steadicam traveling dans Casino et,
c'est lui qui
et genre Terminator et Titanic, tu dis « ok ».
C'est Murrow,
voilà. Donc, c'est quand même... Et encore aujourd'hui, là, dernièrement, c'était le directeur photo, me semble.
Alors, oui, il est également directeur photo. Il a été directeur photo chez Kevin Costner, donc depuis le début, notamment en 2003 avec Open Range.
Ouais.
Il a même également été donc, directeur de la photographie en 2004 pour Collision, film qui a reçu l'Oscar de Paul Haggis. On le retrouve dans d'autres petits films, forcément, même dans Rush Hour 3 de Brett Ratner. Il a également travaillé avec pas mal de séries télé. Alors, il a même réalisé quelques séries télé, enfin, quelques épisodes de séries télé, notamment Shameless, la version américaine, ou encore par exemple The Brink plus récemment, ou même encore la série Southland, il me semble.
Okay.
Mais voilà, ouais, donc on l'a revu assez récemment, donc en tant que directeur de la photographie, non pas Steadicammer, sur aussi la nouvelle fresque de Kevin Costner, donc Horizon, une saga américaine, chapitre 1 et bientôt le chapitre 2.
Donc il est encore parfaitement, non seulement il est encore dans le milieu du cinéma, mais en plus c'est un des Steadicammers les plus reconnus et appréciés du milieu hollywoodien. C'est-à-dire,
exactement.
Déjà quand tu travailles sur plusieurs films de James Cameron, c'est qu'il y a un moment donné, si le mec te reprend pour te faire chef Steadicam, c'est que tu maîtrises bien ton boulot, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un grand génie qui valide en fait tout ce qu'on disait de Street Trash en matière de qualité de réalisation. En fait, il y a déjà des fulgurances dans le film et des choses qui sont... C'est pas juste un film bis, il y a vraiment toute une technicité impressionnante dedans et qui, en fait, au lieu d'être réel, il continue cette chose-là.
Mais c'est sa grande force, en fait, je trouve, à Street Trash. En fait, c'est que c'est un ensemble de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un scénario donc par Hugh Frankis qui va quand même... C'est un peu l'instigateur aussi qui va lancer un peu Jim Murrow dans ce projet-là, parce que finalement c'était qu'un simple court-métrage. Il se rend compte du potentiel de ce que cela peut donner. Il va donc développer un scénario donc qui aurait dû faire 2h40 et qui finalement ne fait qu'une heure 40, mais qui tient la route. Et surtout aussi, il y a le travail technique de Jim Murrow derrière. Et c'est aussi peut-être ça qui montre aussi la grande force de Street Trash par rapport à d'autres films, comme je disais, comme Chud ou Maniac aussi, de William Lustig, qui ont leurs défauts, qui sont des bonnes séries B, mais qui n'ont pas l'aura ni la qualité nécessaire qu'avait okay. Street Trash. Quoi.
Qui sont des très... Maniac est une des meilleures séries B, c'est incroyable, oui, oui. Je veux dire, mais c'est d'un...
Mais ça n'a pas l'aura d'un Street Trash.
Non, mais surtout, Maniac est désespéré, quoi. C'est vraiment oui. noir, quoi. On suit un serial killer et point, quoi. Et avec tout ce que ça c'est de dégueulasse et de profondément déprimant. Et qui a une inventivité et qui a une manière de mettre en scène, d'embrasser ce personnage, c'est brillant, quoi. Street Trash, c'est un film punk, quoi. Et c'est vraiment un film... avec une énergie punk derrière et avec un élan et on sent l'élan dedans, mais de toute façon on fera rien derrière, allez c'est parti, on met tout dans celui-là, on est méchant comme il faut, enfin non, comme il faut pas justement, on est
ouais,
méchant.
Il est gratuit.
Il est gratuit dans
le premier contexte, on pense à cette gratuité, mais en fait le film va vraiment en fait avoir ce côté punk comme tu disais en fait.
Ouais, complètement. Et puis on balance tout, on y va et tout le monde y va et on sent et les différentes images de making of qu'on a aujourd'hui ressent tout le monde prend un pied monumental à jouer, à réaliser ce film, etc. À filmer ou à jouer des choses qui sont moralement inadmissibles quoi, mais dans un joyeux bordel et le Street Trash est un joyeux bordel, c'est même le film joyeux bordel à son apogée.
Oui, c'est un film en fait qui est complètement comment dire, déjà en fait c'est cette façon de travailler le 16 mm, cette façon de travailler en fait tous ces mouvements de caméra et compagnie montre aussi à quel point que on pouvait faire autant un petit film, mais il montre en fait et il fait partie de je dirais de cette grande force du cinéma des années 80, des séries B, en fait de travailler toute cette inventivité, c'est-à-dire que autant on a pu voir des gars comme Sam Raimi travailler à mort par exemple, notamment dans le tout premier, le travail du stop motion pour voir l'un des personnages fondre à la fin. On a le travail incroyable des animatroniques dans le 2. On le voit également avec Peter Jackson sur le travail des différents costumes pour faire des espèces de monstres affreux, bêtes et méchants, je dirais même à la Scola dans Bad Taste. Mais il y avait ce côté un peu, comment dire, On est dans une période où les années 80 commencent à, on va dire, un peu à, je veux dire en gros guillemets, puer de la gueule au niveau de l'époque. et en fait, donc, il y avait une façon de se lâcher à travers le cinéma, et notamment forcément le cinéma de série B, le cinéma de genre, est toujours là pour ça, en fait.
Ouais, et puis une espèce d'insouciance et d'inconscience, en fait, de la part des mecs là, à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, tu refais pas Street Trash, c'est pas possible.
Peter Jackson, non, il peut plus refaire.
Peter Jackson non plus peut plus refaire, mais je veux dire, espèce d'inconscience, quoi, de faire ça, quoi, et de vouloir faire des films qui sont à l'antithèse de ce qu'on peut montrer ou pas au cinéma, quoi, et avec force, et c'est des films à Street Trash ne peut plus exister aujourd'hui, ça
non,
c'est
non,
sûr et certain.
Non, il y avait des rumeurs comme quoi il y allait avoir un remake de Street Trash.
Apparemment, ouais, mais comment tu veux faire un remake aujourd'hui?
Ça a été annoncé en 2024, il me semble.
Ouais.
On n'en a pas revu, enfin, on n'a pas eu une seule image, on n'a rien entendu dessus.
Ouais, sur un synopsis que j'avais vu qui se passera en Afrique du Sud,
enfin,
avec des trucs de complot.
On n'a pas entendu
derrière
de nouveau de choses. Enfin, on sait très bien qu'en fait, un film comme ça, on ne peut plus le faire forcément, mais il n'y a plus le contexte social, il n'y a plus le contexte d'époque maintenant.
Bah, on te referait, oui, on te referait quoi? On te referait des mecs qui fondent avec plein de couleurs parce que c'était comme ça qu'est ce Street Trash, mais la profonde misanthropie de tout ça, on ne pourrait pas la retrouver,
non,
c'est pas possible.
C'est impossible.
Quoi. Et même cette manière de faire, elle est vraiment beaucoup trop estampillée aux années 80 et à cette époque-là. Donc, et en même temps, quel intérêt de le revoir encore maintenant? Il va avoir 40 ans. Ce film, je trouve qu'il n'a pas vieilli une seule fois.
Non, c'est sa force.
C'est
sa grande force aussi. C'est la grande force, en fait, de certains grands films d'horreur, ou même de séries B d'époque. Hein. Vous avez cette suspension d'incrédulité qui arrive très, très rapidement, en fait, et qui ne vous lâche pas, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'un des plus grands réalisateurs américains, encore à l'heure actuelle, peut être un gars comme Sam Raimi, si on lui donne un petit budget, une totale liberté de ton. Et c'est reparti, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en fait...
Ce qui est le cas Street Trash, c'est un des rares films où il y a une liberté artistique de bout
c'est
en
ça.
bout,
c'est
du
ça.
Début à la fin. Ouais, ouais.
Mais voilà, comme on peut le voir avec des personnages comme Jim Murrow, finalement, pour des raisons obscures, parce que disons-le encore clairement, pour des raisons obscures, oui. ne sont plus dans le milieu, en fait.
Non.
Enfin, dans le milieu.
Bah, ne réalisent plus.
Ne réalisent plus.
Voilà. Ouais, bon. Ben, en tout cas, il nous laisse Street Trash. Il existe, oui, quoi. Oui. Donc, il peut le renier s'il veut. En tout cas, le statut culte de Street Trash n'est plus à prouver aujourd'hui.
Non,
quoi.
Non.
Vraiment, c'est une référence absolue pour tous les amateurs de bis et de genre. Qu'il faut voir. Ben, en fait, si vous aimez ça, parce que bon, c'est Street Trash, quoi. Après,
oui.
C'est-à-dire que dans tout ce que ça a de mauvais goût, mais franchement, encore aujourd'hui.
C'est un film qui...
voir avec des potes, une bière à la main, c'est super, quoi, aussi, Street Trash, quoi.
Voilà, c'est un film qu'il ne faut pas l'oublier, en fait. Le terreau vient des réalisateurs provocateurs comme... Enfin, provocateurs, j'aime pas ce terme. Des réalisateurs comme John Waters ou Russ Meyer. C'est des films qui sont pétris d'humour noir, qui essayent de s'inspirer, notamment des tout premiers des années 60-70, comme 2000 Maniacs ou Bloodsucking Freaks. Donc, c'est vraiment... on est un film qui va multiplier les propos scabreux pour continuer et pousser l'excès d'avoir un, on va dire ce récit presque anthologique en fait d'une histoire en fait très typique de l'époque en fait.
Ouais, en tout cas d'avoir un film presque témoin de cette époque-là.
C'est ça.
Pas forcément témoin dans ce qu'était vraiment l'Amérique à ce moment-là. Attention, mais... ne ramenons pas le film non plus pour ce qui ne l'est pas.
Non, non, non.
Mais en tout cas de ce que pouvait être le cinéma underground de cette époque-là et ce qu'il avait à raconter des États-Unis aussi.
Voilà, tout simplement. C'est ça. Merci Seb. Non mais c'est vrai que en fait pour conclure en fait sur Street Trash, c'est vrai que c'est un film à voir forcément si vous aimez le côté très bête et méchant et le côté très très second degré, le film va forcément vous parler quoi. Mais en tout cas, c'était la dernière de la saison.
Oui, et quelle dernière.
Voilà. Quelle dernière. Il fallait bien qu'on termine avec un grand film. Et, mais un grand film, attention, je rigole, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins.
Voilà.
Parce que finalement, heureusement que Street Trash existe, parce qu'il faut toujours le dire, et heureusement que ce genre de film continue d'exister.
Absolument.
Merci Seb.
Merci à toi.
On se retrouve donc à la rentrée prochaine. Ciao tout le monde. Bon été à tous.
Turn around, you prick, you! I'll bite your heart! You call me Mr. Durant! And listen to everything I say. Listen, 'cause I am the man. And we do everything my way. If you didn't know it before, I'm sure you're gonna know it now. You better hear what I say. We do things my way.
I don't shake shoes anymore.
Hey, do the right thing. Shut your face, you little scumbag. Listen good. I'll tell you one thing, kid. You're gonna be sleeping with the fish, you little fuck. And this ain't no gag. So big mouth, what else could go wrong? For a real nice kid like you. Believe me now when I say we do things my way. And now the last laugh is on you, my friend. So you can stop the bullshit, 'cause this is the end. So give me a drink of your brew. Let's toast to your hasty departure, cuz. Oh, what's this? I'm starting to ooze. You little creep. What's this fucking shit? What are you trying to start here? Your face. I'm gonna reshape. I'm gonna eat your fucking eyeballs like grapes. Oh, God. Oh, Christ, till this fucking day,
we did things.
My women.